Bonjour à tous, bonjour, ça y est, on est prêt. Hop là. Shalom, shalom. Wouh! Excusez-moi du retard, c'était un tout petit peu rock'n'roll. Une horaire compliquée en période de confinement. Mais ça y est, on est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? Où est-ce que je dois mettre les écouteurs? Zéro? On va mettre ça. Yofi, tout le monde m'entend? C'est bon, on peut y aller? Eh bien alors, messieurs, dames, sans plus attendre, on se lance dans notre étude. Yofi, alors c'est parti. Ça marche aussi avec? Bon, c'est super. Alors, allons-y. Eh bien, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, on est lancé pour notre étude de la Parashat à Shavua. Alors, j'avais donné deux noms différents pour le titre du Shiur. Quand on m'a demandé le titre du Shiur, j'ai écrit Avraham, je lui ai dit « Promenade de sainteté ». Et quand j'ai écrit sur YouTube, le titre du cours, j'ai écrit ça, le book, B-O-O-K, en anglais, le book ou l'émissaire. Alors les amis, allons-y sans plus tarder dans notre double paracha, parachat Acharemot Kedoshim. Ouah! Parachat Acharemot Kedoshim, c'est peut-être le cœur de toute la Torah en fait, puisque ce sont les parachiot qui vont tout simplement nous mettre en place et en surbrillance l'objectif que l'homme et que le peuple juif doivent atteindre d'après la Torah. Alors, pourquoi je dis cela? On va dire à chaque fois qu'il y a un rabbin qui fait un commentaire sur une paracha, il dit « Non mais cette paracha, c'est la plus importante !» Et moi le premier, hein. Pourquoi je dis que cette paracha semble tout simplement nous mettre devant les objectifs de toute la création? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque Dieu crée le monde en, je rappelle, 6 jours, eh bien, le 7e jour, comme vous le savez, c'est Shabbat, il s'arrête. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, il s'arrête? Eh bien, le 7e jour, il nous laisse à nous le soin de parfaire, de terminer la création. Et donc, nous arrivons à ce fameux verset que vous connaissez également très bien, qui nous dit la chose suivante. Vayechulu ha-shamayim va-aretz ve-chol tzevav. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, tout ça, ça vient nous dire que Dieu a arrêté de bosser, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. Et voilà. ויקדש אותו, c'est le projet du 7e jour. Arriver à la Kedusha. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que notre paracha, notre doublé de paracha, eh bien, est là pour nous amener à la réalisation du 7e jour. Oui, on va y arriver dans la deuxième paracha, parachat Kedoshim. Eh bien, ça sera clairement exprimé par ce verset Kedoshim Tiyou. Mais je voudrais pas aller trop vite. En voulant présenter ces parachutes comme étant les parachutes de l'idéal, eh bien, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce que cela veut dire. Alors, les amis, rentrons dans le vif du sujet. Prenez avec moi ceux qui veulent un texte, ça peut toujours aider. Le livre de Vaïkra, à la paracha donc de Acharei Mot. Et cette paracha donc s'ouvre en fait sur la suite de la paracha de Shemini. Alors il y a eu effectivement Tazria Metzora au milieu, mais quand on regarde le contexte des événements, eh bien on se rend compte qu'on va reprendre directement après la mort de Nadav et Avihu. Et donc ça commence comme ça. Et il est. ויהי אחרי מות, וידבר השם למשה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. Et donc tout le chapitre Tetzain, tout le chapitre 16 du livre de Vaïkra, a pour rôle de nous expliquer ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas devenir Nadav et Avihu. Ah ben voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas en train de dire, Chas v'Shalom, que Nadav et Avihu sont des fauteurs, car nulle part, ni dans la Torah, ni dans le Talmud, il n'est fait mention que Nadav et Avihu sont des fauteurs. Nadav et Avihu sont des tzadikim, il n'y a aucun problème à cela, mais la Torah ne veut pas qu'on reproduise ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, Nadav et Avihu sont rentrés dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints, l'Ifnaï Velifnim, avec pour volonté de ne pas en ressortir. Ici, dans notre paracha, eh bien, tout est mis en place pour nous expliquer comment le Kohen Gadol qui suivra Nadav et Avihu, eh bien, lui pourra ressortir. Car comprenez-moi bien, qu'est-ce que cela veut dire rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Alors, je vous parle de manière complètement théorique. Je ne suis pas Kohen, encore moins Kohen Gadol, et je ne vis pas à l'époque du Beit HaMikdash. Donc, je ne suis pas rentré dans le Kodesh HaKodashim. Je ne peux pas vous dire au niveau du ressenti qu'est-ce que c'est, mais je peux vous expliquer au niveau du concept. Eh bien, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est tout simplement passer dans un autre univers, passer dans une autre dimension qu'on appelle, judaïquement parlant, le huitième jour. Lorsqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, on rentre dans le huitième jour. C'est-à-dire que quand on rentre dans le Beit HaMikdash, on est déjà, si tu veux, dans le couloir du huitième jour, mais alors le Kodesh HaKodashim, laisse tomber, c'est un autre truc. Et de la même façon qu'on ne peut pas aller dans le sixième jour, c'est, on est au-dessus de ça, eh bien, le huitième jour, c'est un autre dimension, une autre dimension. À tel point que la Torah va nous dire ici que lorsque le Kohen Gadol à Yom Kippour, après avoir fait toutes les préparations, va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit bien « Vechol Adam lo yeh be'ol moed » C'est-à-dire que même lorsque Aaron rentre dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit « il n'y a personne là-bas ». C'est-à-dire Aaron, il rentre et pouf, il n'est plus là. Il n'est plus dans notre plan d'existence. Je ne sais pas ce que ça voulait dire dans les faits, mais je sais quelle est la préparation qui est faite pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a une préparation très importante avant Yom HaKippourim. Dans notre paracha également, on a vu que lorsque Aaron se préparait avec ses enfants avant l'épisode Nadav et Avihu, la préparation de Moshe a duré 7 jours. Eh bien, quand on regardera la Mishnah dans le traité de Yoma, eh bien, on se rendra compte qu'il y a cette même préparation pour le Kohen Gadol. 7 jours avant Yom HaKippourim, on le met de côté et on le prépare. On le prépare à tout ce qui va lui arriver là-bas et particulièrement à sa réalité lorsqu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et à ce moment-là, eh bien, il se passe quelque chose. Car le Kohen Gadol rentre, et alors là, bon, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je le redis parce que ça fait toujours plaisir. Parce qu'au moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a cette légende. Oui, je dis bien légende, car c'est tout sauf vrai. Il y a cette légende qu'on accrocherait une chaîne au pied du Kohen Gadol, au cas où Chas Veshalom il meurt dans le Kodesh HaKodashim et qu'on puisse le tirer en un seul morceau de là-bas. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, si on vous a déjà parlé de cette légende fantastique, parce que je le répète, hein, c'est une légende. C'est faux, archi-faux et archi-de-archi-faux. Alors, pour l'anecdote, il y a quelques années, j'étais à l'époque où il y avait, vous savez, cette machine qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui marchait avant, qui s'appelait l'avion. Oui, il y avait un jour, on a eu comme ça, avant l'époque Corona, il y a eu des appareils comme ça qui montaient dans le ciel, c'est incroyable. On pouvait voler comme des oiseaux. Et donc, à cette époque des avions, eh bien, je fus envoyé pendant quelques jours là-bas, en Gaule. Et j'ai été dans une école juive, dont je tairai le nom, évidemment. Et je devais donner un cours là-bas sur Tou Bichvat. Donc vraiment aucun rapport avec ce qu'on est en train d'étudier. Je ne peux pas vous dire comment on y est arrivé, mais à un moment donné, il y a un élève qui m'a posé une question par rapport au Kohen Gadol, et qui est pourri, mais il meurt et la chaîne et tout ça. Alors je lui ai dit, écoute, ce n'est pas le sujet. Si tu veux, on en parlera après le cours, mais sache juste que c'est faux. C'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol ne meure à Kippour. À ce moment-là, le personnage qui faisait office de professeur, rabbin, je ne sais quoi, de la classe, s'est réveillé. Et a dit, bon là, ça suffit, ça fait une demi-heure que je vous laisse dire vos inepties là sur les fruits, je ne peux pas laisser passer ça. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on ne peut pas laisser mentir. Je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il dit, bah, cette histoire du Kohen Gadol, vous dites que ce n'est jamais arrivé, c'est complètement faux, vous mentez. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est pas le sujet, si vous voulez, je vous propose, on garde 10 minutes, on finit le cours plus tôt, on en parle après. Il m'a dit, non. Bon, à ce moment-là, vous avez compris, tous les élèves de la classe se sont dit, il va y avoir de la fight, donc tout le monde était chaud. Et j'ai dit au professeur, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vraiment, vous êtes sûr que vous voulez rentrer là-dedans? Il m'a dit, oui. J'ai dit, bon, bah alors allons-y. La Guémara nous dit que à l'époque du Deuxième Temple, effectivement, les Kohanim Gdolim étaient corrompus à la solde de Rome. Et pour la majorité d'entre eux, ils fautaient. Seulement, est-ce qu'ils mouraient? Eh bien, on a pris ensemble la Guémara, qu'il a eu un peu de mal à lire, mais bon, ça, c'est pas très grave. Hein. On est en France, on ne sait pas forcément lire l'araméen. Et on a vu là-bas qu'il y avait marqué une phrase très intéressante dans le traité de Yoma. Que comme à l'époque du Deuxième Temple, les Kohanim Gdolim étaient corrompus et qu'ils n'obéissaient, ils ne faisaient respecter pas ce qu'il fallait respecter, eh bien, nous dit la Guémara que la punition qu'ils recevaient, c'est qu'ils ne terminaient pas leur année. Les mecs, ils ont fauté à Kippour. Et la punition, c'est de ne pas finir l'année. Donc, quand est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Ben, à Kippour. Ça, ils peuvent mourir quand tu veux, mais pas à Kippour, puisqu'ils ne peuvent pas terminer leur année. La Guémara ira même jusqu'à dire qu'un jour, il y a un Kohen Gadol qui a fauté, qui, quand il est sorti du Kodesh HaKodeshim, a été frappé par un ange et est mort 3 jours plus tard. En d'autres termes, ce n'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meure dans le Kodesh HaKodeshim. Bon, déjà, à ce moment-là, il a changé de couleur, le monsieur. Mais bon, je lui ai dit, vous savez quoi? Disons que c'est arrivé, disons qu'il est mort. Vous me dites qu'on lui a attaché une chaîne? Où c'est marqué? Il m'a dit, c'est marqué dans le Talmud. Non. Manque de bol, j'avais sur moi l'application Talmud et j'ai marqué nulle part. C'est marqué nulle part. D'ailleurs, on n'a pas le droit de faire rentrer une chaîne dans le Mikdash. On n'a pas le droit de faire rentrer de l'acier dans le Betamikdash. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, il m'a dit, non, mais une corde. Je dis, ah, une corde, c'est déjà plus une chaîne. Alors, la corde, elle n'est pas marquée dans le Talmud. Elle est certes marquée dans le Tikkun Ezohar. Mais bon, si c'est le Tikkun Ezohar, c'est que peut-être qu'il faut comprendre ça autrement. Mais bon, disons. Je lui dis, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une corde? Si jamais il meurt, alors on le sort. Mais comment on sait qu'il est mort? Comment on sait qu'il est mort? Ah, vous avez entendu parler de cette légende. Comment peut-on savoir qu'il meurt? Eh bien, tout simplement, l'histoire des clochettes. Eh bien, oui. Vous savez, on nous raconte que le Kohen Gadol, il y avait des clochettes, quand il rentrait, ça faisait gling-gling. Ben, si ça fait plus gling-gling pendant une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. Quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol s'est changé. Il a ses habits blancs. Il n'y a plus de clochettes, donc il n'y a pas de gling-gling. Et même s'il devait y en avoir, et même s'il devait mourir, et même s'il avait une corde, j'ai pas besoin. Parce que si ça devait arriver, alors d'après la halakha, ils aient ce qu'on appelle met mitzvah, et n'importe qui peut rentrer et le sortir pour l'enterrer. Donc c'est quoi cette légende? On nous raconte, le Zohar nous dit qu'il avait une corde au pied. C'est une corde zoharique. Qu'est-ce qu'elle veut dire en vérité? Eh bien, dans la Mishnah, on nous dit que lorsqu'on a fini sa formation, dans le traité de Yoma au chapitre 1, Mishnah 5, nous dit la Mishnah que lorsqu'il avait fini sa formation, le Kohen Gadol, alors les Chachamim du Sanhedrin lui faisaient prêter serment qu'il n'allait rien changer à ce qu'il avait appris. Comment on dit prêter serment en hébreu? Lehashbia. Mashbi'in oto. Seulement, mashbi'in oto, ça vient de la racine sheva. En d'autres termes, les chachamim, c'est ça cette corde. Ils lui disent, reste attaché à nous dans le septième jour. Tu vas rentrer dans le huitième. Au niveau de ta carrière spirituelle personnelle, c'est sûr que tu as envie de rester là-bas. Mais non. Parce que tu ne rentres là-bas que pour nous rapporter à nous les forces que tu y as acquis. En d'autres termes, comme dit la chanson, Ufren man edar aya kohen gadol betzeto mi bet kodesh kodashim. La grandeur du Kohen Gadol, la beauté, ce texte qu'on lit à Yom Kippour, c'est lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim. Et non pas lorsqu'il y rentrait. Car toute la grandeur, c'est lorsqu'on a rencontré les forces de vie, lorsqu'on a rencontré la source de vie, et qu'on est capable de revenir dans ce monde pour leur faire profiter le peuple juif. En d'autres termes, le début de la paracha nous dit la chose suivante, Rabotai. Tu veux arriver à réaliser la Kedusha, c'est-à-dire le projet du monde, le projet du septième jour? Pour cela, tu as besoin d'envoyer un émissaire dans le huitième. Tu as besoin d'envoyer ce Kohen Gadol pour savoir vers quel idéal tendre, pour savoir comment compléter le boulot. C'est comme si tu as aujourd'hui un exercice que tu dois finir ta copie, mais tu n'as pas le sujet. Donc, si tu n'as pas le sujet, tu ne sais pas comment remplir ta copie. Le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodeshim, il rentre dans un monde sous Kulo Kedusha. Ça lui permet de ressortir et de nous dire voilà ce qu'il faut faire. Donc, le début de la paracha de Aharemot nous dit voilà, tu vas rentrer dans cet idéal qui s'appelle Olam Hashmini, qui est la Kedusha pure, mais tu ne rentres pas pour y rester, tu rentres pour nous dire comment maintenant on va tous y aller. Alors, on est prêt, on veut y aller. Seulement, attention. Parce que si tu veux y aller, si tu veux pouvoir atteindre la Kedusha, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir être capable de faire tien ce monde, de parfaire le monde dans lequel tu es, c'est-à-dire de réussir à réaliser le septième jour pour le faire atteindre la Kedusha. Ah, alors c'est très bien, pas de problème, j'ai ce qu'il faut, j'ai le mode d'emploi pour arriver à la Kedusha, Torah ou Mitzvot. Oui, bien sûr, mais il y a juste un problème. C'est que ce monde n'est pas composé uniquement de Torah ou Mitzvot. Il y a dans ce monde des forces qui ne sont pas les forces de la Torah, qui sont même des forces anti-Torah. On va appeler ça, dans un langage purement fantasy, les forces du mal. Ou alors, si je devais utiliser un langage de pop culture et de la guerre des étoiles, je dirais qu'il y a le côté obscur de la force. Oui, vous m'avez bien compris. Il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah Sitra Dekdusha ve Sitra Achara. Le côté de la Kedusha et le côté autre. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que la paracha continue en nous donnant un verset qui est encore une fois la préparation, enfin la voda de Yom HaKippourim, mais c'est un verset qui, pour toute personne qui est un tout petit peu monothéiste, doit lui faire se hérisser les cheveux sur la tête, même quand on n'en a pas beaucoup, comme moi. On nous parle ici du Kohen Gadol qui va devoir faire un boulot. « Venatan Aaron leshne aseirim goralot » On prépare deux boucs et on va tirer au sort. Et vous connaissez la suite. C'est quoi la suite? Seir echad l'Hashem ve seir echad. Le verset nous dit Gora l'echad l'Hashem ve Gora l'echad l'Emi. Okay, on va voir si vous suivez. Je vous laisse deux secondes pour écrire. Gora l'echad l'Hashem ve Gora l'echad l'Emi. Ah, ça marche pas, hein? C'est quand même mieux quand on est en live, hein. On peut avoir des interactions quand même plus sympathiques. Mais bon, disons, oui, ouais, voilà, je préfère en français, malheureusement, c'est mieux écrit. Azazel, parce que toi, t'as marqué Yachl Azazel. C'est bon, vous savez, tout va bien. Seir Echad Lashem, Goral Echad Flecha Lashem, et Goral Echad Lazazel. Vous êtes d'accord avec moi que ce verset est purement anti-monothéisme. Ben oui. Quoi? Azazel, c'est l'alter ego de Hachem? Vous comprenez le verset? Un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel. Je m'en fiche pour l'instant de savoir ce que c'est Azazel. C'est bon, vous savez tous, Azazel, tout va bien. Je m'en fiche de savoir ce que c'est Azazel pour le moment. Il est présenté comme étant face à Dieu. Comme s'il y avait un dualisme, qu'il y a deux dieux, un dieu bon, Yudke Vavke, et un dieu mauvais, Azazel. Quoi? Azazel, c'est Belzébuth? Azazel, c'est quoi? C'est Lucifer? Mais on est en plein dans la gnostique chrétienne, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est un problème. Alors d'autres rabbins ont essayé d'expliquer en disant qu'en fait non, Azazel c'est le nom d'un endroit, c'est là où on envoyait le bouc, et en fait c'est un qu'on emmène au Beth Amikdash et un qu'on emmène là-bas à Azazel, mais ce n'est pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué Goral Echad Lashem Vela Azazel, si tu avais voulu dire ça, tu aurais dit Goral Echad Lamikdash Vela Azazel. Azazel, c'est la azout. C'est toutes les forces les plus primaires et brutales, les forces les plus élémentaires. D'ailleurs, c'est un seir qu'on amène là-bas. Mais c'est seir, c'est tout ce qui est soer. C'est tout ce qui est voilà, primaire, mais pas dans le mauvais sens. Instinctif, animal. Eh bien, ces forces-là, c'est Azazel. En d'autres termes, qui va donner l'ordre de nourrir ces forces-là? On lui donne un corban, c'est pas vraiment un corban, mais on lui donne un bouc à manger. Qui ordonne de faire le seir là, Azazel? C'est Akadosh Baruch Hu. Le fait que Dieu soit celui qui ordonne de nourrir les forces qu'il ne veut pas qu'on serve, montre que Malchuto Bakol Mashallah, montre que c'est bel et bien lui le patron de tout, y compris des forces a priori négatives. C'est comme ce que dit Shlomo Ameler dans Michelet. Imra'ev sona'acha achileu lechem ve'im tzameh ashkeu maim ki gechalim atachoteh arosho. En d'autres termes, si ton ennemi est affamé, nourris-le. Lama. Parce que si c'est toi qui le nourris, tu le maîtrises. Donc, tu n'auras plus peur de lui. Vous savez, le Talmud nous raconte dans Maseret Pesachim qu'il y avait un moment que les rabbins redoutaient terriblement. Ce moment s'appelait Drashta de Rigla, la Drasha des fêtes. Le grand discours du rabbin avant Pessah, avant les autres fêtes, Pessah, Yom Kippourim, Shabbat Hagadol, Shabbat Shuvah, le rabbin fait un grand discours. Et pourquoi les rabbins redoutaient ce moment-là? Alors pas pour le discours, t'en fais pas, les rabbins ils aiment parler, c'est pas ça le problème. Mais ils redoutaient énormément parce que dans ce discours-là, eh bien les hommes et les femmes venaient écouter. Et Shumu Shomaim, ils avaient très très peur parce qu'à la fin du discours, eh bien les hommes et les femmes allaient se retrouver. Oh, il va voy! Ils auraient pu annuler la drashta des rigla. Mais ils ont dit non. Parce que de toute façon, hommes et femmes vont se retrouver. Vaut mieux qu'ils se retrouvent dans une ambiance de shiur de Torah. Comprenez-moi bien. Il y a des choses, des forces, des pulsions que le judaïsme n'accepte pas comme étant un idéal. Et se dit même, c'est pas bien ça. Mais si on comprime, et qu'on ne laisse jamais s'exprimer ces forces-là, eh bien, elles vont exploser. Imaginez un cas purement théorique, d'accord ? Imaginez une société théorique, purement théorique, une société qui rejetterait totalement tout ce qui est en rapport avec Internet, tout ce qui est en rapport avec les smartphones, tout ce qui est en rapport avec le monde extérieur, une société qui ne voudrait vivre que de cacheroute. C'est-à-dire qu'il faut avoir un téléphone cachère, il faut avoir un trottoir cachère, un bus cachère, une séparation avec béton armé entre la rue des hommes et la rue des femmes. Bon, évidemment, c'est un cas purement théorique qui ne peut pas exister dans la réalité, mais imaginons une société comme celle-là. Est-ce qu'on n'aurait pas dans cette société des troubles très importants au niveau des relations entre les hommes et les femmes? Puisqu'on ne laisse jamais s'exprimer rien du tout. Il faut que tu sois le maître des forces qui sont mauvaises pour qu'elles ne te fassent pas peur, pour que tu saches les dompter et que tu saches les utiliser quand il faut. Être un mec chaud bouillant, être un mec chaud patate, c'est pas forcément idéal, non. C'est pas bien de, à chaque fois qu'il t'arrive un truc, de péter la veine qui est là et de tout casser. Non, c'est pas bien. Il faut être plus réfléchi, il faut être plus calme, bien sûr. Mais si lorsque tu arrives chercher ton fils à l'école et que tu vois quelqu'un qui est en train de l'embêter, tu viens chercher ton fils en kita gan, je sais pas, kita aleph, et tu vois que ton fils se fait, ou ta fille, se fait martyriser par les grands de kita yudbet. Mais je peux t'assurer que là, faut pas faire preuve de retenue. Mais là, le Kita Yudbet, faut lui expliquer de manière intéressante que c'est la dernière fois qu'il a essayé d'embêter ton fils. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir utiliser ses kochot. T'imagines si quelqu'un qui rentre à l'armée et à chaque fois qu'il doit tirer contre un ennemi, un terroriste qui arrive vers lui, il commence à réciter toutes les mishnayot de Pikuach Nefesh al-Pi Halakha. Et le pauvre, il va mourir. Maîtriser pour qu'elles non seulement ne nous embêtent pas, mais en plus, qu'on sache comment les utiliser à bon escient. Et je vois que Laurence, tu as fait référence, effectivement, au minag de Maïm Acharonim. Et oui, on nous dit dans le Shulchan Aruch, Maïm Acharonim Chova. Chova. Chova, ça veut dire Chova, faut le faire. Le problème, c'est que personne ne le fait. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, moi je fais Maïm Acharonim. Personne ne fait Maïm Acharonim tel que le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire Maïm Acharonim. Parce que pour le Shulchan Aruch, pourquoi il faut faire Maïm Acharonim ? À cause de ce qu'on appelait à l'époque le Melach Sdomit. Oui, je vous explique. À l'époque, il n'y avait pas de couvert, on mangeait avec les douets. Et à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Donc, pour conserver la viande, eh bien, on la mettait dans du sel très agressif, très gros. Résultat des courses, il y avait plein de sel sur ces aliments, sur tous les aliments. Et donc, toi, tu mangeais avec tes doigts, tu en avais plein les doigts. Et tu sais comment, quelle est cette gestuelle que tu as quand tu as fait un bon repas ? Et le Shulchan Aruch te dit, mais si tu fais ça avec des mains pleines de sel, tu risques de te rendre aveugle. C'est dangereux. Donc, il faut faire Maïm Acharonim, c'est-à-dire bah, se laver les mains. Oui, se laver les mains à grandes eaux. Comme on fait Maïm Rishonim, et ça, on le fait à grandes eaux, c'est aussi pour avoir les mains propres. Eh bien, on fait Maïm Acharonim. C'est pour avoir les mains propres. Et ne venez pas me dire pas du tout, la Netilat Yadayim, ce n'est pas pour avoir les mains propres, c'est pour faire une aliyah bakodesh. D'après la halakha, tu fais un et un, révite, révite, pour te laver les mains. Le fait qu'à Kabbalah, on fasse un, deux, trois, un, deux, trois, pour des dimensions spirituelles, c'est autre chose, mais c'est à Kabbalah. D'après la halakha, un et un, à Kol Besader. À condition que tu aies assez d'eau. Donc, c'est bien de ça qu'on parle. Il te faut beaucoup d'eau pour te laver bien la main. Et pareil, Maïm Acharonim. Le problème, c'est que quand tu vois aujourd'hui des gens qui font Maïm Acharonim, ils prennent un tout petit peu d'eau, ils te mettent jusqu'au bout des doigts, juste le bout des doigts. C'est pas ça qui va t'enlever le Melach Sdomit. Mais non. Parce qu'aujourd'hui, on a des frigos, parce qu'aujourd'hui, on mange avec des couverts, et que donc, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi on fait Maïm Acharonim ? Eh bien, nous dit la Kabbalah, parce que les forces clipotes, les forces négatives, s'imprègnent dans l'homme sous les ongles. Et donc, tu dois leur donner un petit peu à manger à la fin de ton repas. Mais attention, un petit peu, pas trop, pour leur montrer que tu les nourris, tu comprends qu'elles ont un rôle à jouer, mais c'est toi qui les domines. En d'autres termes, Rabotai, le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, comme on a dit, pour là-bas, s'y imprégner de la source de vie, ressortir du Kodesh HaKodashim et nous donner le titre. Voilà, c'est vers ça qu'il faut tendre. Yala au boulot. Au boulot, et comment on va faire ça ? Eh bien, on va savoir que tout ce qui est dans ce monde, toutes les forces que Dieu a mises dans ce monde, eh bien, je les domine. Je les maîtrise parce que Dieu m'a dit de les maîtriser. Et donc, il y en a que je vais maîtriser les khatrila sans modération, si tu veux, parce que c'est les mitzvot, c'est les forces que Dieu m'a dit, c'est bien de les utiliser. Et il y en a d'autres que je garde en vie parce qu'elles ont un rôle à jouer. Elles ne me font pas peur parce que je suis leur dominateur, parce que c'est Dieu qui m'a dit de leur donner à manger. Une fois que j'ai dit cela, eh bien, je suis prêt, il n'y a plus rien qui va m'empêcher à remplir mon rôle. Alors, au boulot. Et quelle est la suite de la paracha de Acharemot ? Une fois qu'on a terminé de parler du Seder à Avoda chez Yom HaKippourim, eh bien, de quoi parle-t-on ? Eh bien, tout simplement, Rabotai, on nous parle. Bah oui. On nous parle de quoi ? Ben, je vais vous dire. Il est. Vaidaber Hashem el Moshe le mort. Daber el Aaron vel banav vel kol vene Israël va amarta alem. Zé adavar shersiva Hashem le mort. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כבש, או כסף סליחה, או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד, לא הביאו להקריב קורבן להשם, לפני מצוי משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. De quoi parle-t-on? Eh bien, une fois qu'on a mis en place les idéaux, on nous dit « Attention !» Très bien. Donc, tu dois utiliser toutes ces forces, mais « Likdusha ». Et donc, on te dit « Si maintenant, tu veux élever la vie, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit relié à la dimension de sainteté. » Donc, eh bien, on te dit « Tout celui qui abattra un animal pour le manger, à l'extérieur du Mikdash, du Mishkan, il sera considéré comme un meurtrier. » Incroyable. Donc, c'est-à-dire que d'après le livre de Vayikra, on n'a pas le droit de se faire un steak. Le seul moyen de se faire un steak, c'est au Beth Amikdash, au Mishkan. Eh bien, je peux te dire que la quantité de barbecue qui ont été faits hier montre que ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Nahon. Parce qu'au niveau du Sefer Vayikra, on est concentré autour du Mikdash. Quand tu vis une vie purement théorique, puisque la vie du Midbar, c'est une vie théorique, alors tu peux aller au niveau théorique. Et donc, au niveau théorique, quand tu habites à 1 kilomètre maximum du Mishkan, eh ben, ton steak, tu l'amènes au Mishkan. Tu en fais un korban shlamim. Seulement, nous dira la Torah dans le livre de Devarim, que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, v'chi arrive Hashem et gevulecha, que tu arrives en Eretz Israël et que donc, bah, techniquement, tu es pas proche du Bet Hamikdash tous les jours, mais qu'il habite à Be'er Sheva, il va pas aller au Bet Hamikdash chaque fois qu'il veut manger un steak. À ce moment-là, la Torah nous dit, tu peux faire la shrita où tu veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, la kedusha n'est plus seulement quelque chose qu'on peut atteindre seulement au Mishkan, mais la Kedusha est quelque chose qu'on peut atteindre dans la vie. C'est le grand Chidush. Dans la paracha de Acharemot, on n'y est pas encore, parce qu'on est encore dans le désert. Dans la paracha du Sefer Devarim, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, eh bien on nous dira, là maintenant, la Kedusha peut être en osmose avec la vie. Sauf que si c'est de cela qu'on parle, de dévoiler la Kedusha dans la vie, eh bien on ne pouvait pas terminer la paracha de Acharemot sans nous mettre en garde contre ce qui semble être un acte de vie, mais qui en fait est un acte de mort. Et c'est pour ça que la paracha de Acharemot se termine par toutes les lois sur les harayot, par toutes les lois sur les relations interdites entre les hommes et les femmes. Pour évidemment nous montrer quelles sont les relations permises. Eh oui, car il n'y a pas dans ce monde, et je pense que je n'apprends rien à personne, il n'y a pas dans ce monde de force plus forte, de force plus grande, intense, que les forces de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu a mis en place au niveau corporel, eh bien, des instants d'extase incroyables, parce qu'il s'agit ici de forces fondamentales. À tel point que dans l'Antiquité, beaucoup de cultures arrivaient à leur extase spirituelle par la sexualité. Il y a même jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux en Extrême-Orient, où on pratique le tantrisme, c'est-à-dire une façon d'avoir les relations entre un homme et une femme qui nous amène à des extases pas seulement physiques, mais spirituelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les forces qui se dévoilent lorsqu'un homme va avec une femme sont des forces qui défient toute concurrence. Seulement, c'est là que vient tout le danger. Est-ce que tu vas les utiliser Besitra Dikdusha, comme on a vu tout à l'heure, ou Besitra Achara? Il y a donc une formule dans laquelle ces forces-là amènent la vie. Et il y en a d'autres où elles n'amènent pas la vie, tout simplement. Si je devais résumer les Issouré Arayot, eh bien, elles sont très simples. Ce qui est à vocation à donner la vie, c'est positif, c'est permis. Ce qui a vocation à amoindrir la vie, ou Bichlal à ne pas donner la vie, eh bien c'est négatif. Et donc c'est interdit. De manière générale, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, de manière générale, les harayot interdites, c'est les proches. Alors, on peut avoir une explication morale, que c'est complètement immoral de coucher avec sa mère, de coucher avec sa fille, de coucher avec sa sœur. Mais de manière purement biologique, aujourd'hui, on sait très bien que ça va créer une dégénérescence génétique. Donc, ça amoindrit les forces de vie. Donc, c'est interdit. Alors que lorsque tu veux construire la vie, eh bien, tu as besoin de celui qui est extérieur à toi. Et ça rejoint la dimension morale. Parce que comprenez-moi bien, quand on nous dit que celui qui couche avec sa sœur, c'est assour, la Torah appelle ça chesed hu. De coucher avec sa sœur, c'est chesed. Lama, c'est chesed. Parce qu'en fait, tu cherches celle qui te ressemble le plus, celle qui est toi, celle qui a grandi sous le même toit que toi, qui a mangé comme toi, qui a étudié comme toi, qui a vécu comme toi. En fait, c'est un espèce d'égoïsme mis à la famille. En d'autres termes, lorsque tu couches avec quelqu'un de ta famille, eh bien, c'est quelque part aller vers ce qui te ressemble. Alors que pour donner la vie, tu as besoin d'aller voir celui qui te complète. Le top du top de l'abomination, d'après la Torah, Toeva, c'est lorsque tu vas aller justement tellement chercher ce qui te ressemble que tu vas pratiquer la relation homosexuelle. La relation homosexuelle, c'est complètement rejeter l'idée que j'ai besoin d'un complément pour amener la vie. Et donc, si avec la sœur, la mère, la fille, eh bien, biologiquement parlant, tu peux amener la vie, une vie qui sera avec plein de problématiques, et si ce n'est pas sur une génération, ça sera sur deux, la relation homosexuelle, elle ne peut pas donner la vie. En d'autres termes, on termine la paracha de Aharei Mot qui nous a mis comme idéal. Voilà la source de vie le huitième jour. Pour y arriver, je ne dois avoir peur d'aucune sorte de dévoilement dans ce monde. Il y en a qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs, mais dans tous les cas, je gère. Et donc, je me concentre maintenant sur la volonté de donner la vie. Une fois que j'ai mis ça en place, eh bien, je peux rentrer dans notre seconde paracha, parachat Kedoshim. Eh oui, car la paracha de Kedoshim, une fois que tu as mis les bases en place pour y arriver dans la paracha de Aharei Mot, eh bien, la Torah peut venir et te dit la chose suivante. Iné, dans la paracha de Kedoshim, Vaidaber Hashem el Moshe le mort, Daber el kol adat bene Israël, va amarta alehem, Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Hashem Elohechem. Daber el kol adat bene Israël, Rabotai. La paracha de Kedoshim commence en nous disant, voilà, je t'ai expliqué comment tu devais y arriver, maintenant viens, on y arrive. Pour y arriver, Daber el kol adat bene Israël. Rashi nous dira, dans ce verset, premier verset de la paracha de Kedoshim, nous dit Rashi, Melamed she paracha zon emra be'akel. C'est-à-dire que Moshe a rassemblé tout le monde pour dire cette paracha. J'ai pas besoin de Rashi pour ça. C'est marqué dans le texte. Dans le texte, c'est marqué Daber el kol adat bene Israël. Donc, j'ai pas besoin de Rashi pour me dire qu'il a rassemblé tout le monde. Que m'apprend Rashi? Rashi m'apprend la chose suivante. Ce verset m'apprend que si tu veux arriver à la Kedusha, c'est pas tout seul. Si tu veux arriver à la Kedusha, tu as besoin de kol adat bene Israël. Et ça, c'est un chidouche atzoum. Parce que dans toutes les autres cultures, nous, on connaît bien la culture chrétienne. Pourquoi les interdits sexuels sont répétés dans la paracha de Kedoshim? Ah, bien, tout simplement parce qu'il y a les interdits sexuels qui sont en rapport. Je prends ici la paracha de Aharei Mot. Bonne question. Pourquoi? Je répète la question. Pourquoi est-ce que les interdits sexuels ne sont et présents dans la paracha de Aharei Mot et représentent dans la paracha de Kedoshim? Eh bien, dans la paracha de Aharei Mot, on nous parle des interdits sexuels. Dans la paracha de Kedoshim, on nous parle de ces interdits avec leur punition. C'est-à-dire qu'il y a Azara et ensuite il y a Onesh. On a besoin de ces deux dimensions. Maintenant, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par opposition à toutes les autres cultures, et nous on connaît bien la culture chrétienne, on va voir que le prêtre, pour arriver au top du top de la spiritualité, il se détache du reste du monde. Les moines dans leur monastère, dans le désert, vous savez, en Israël, lorsqu'il y avait l'Empire byzantin, eh bien, il y a eu beaucoup de monastères chrétiens qui ont été créés en Israël. Vous les voyez à chaque fois dans des endroits complètement reculés, dans le désert, dans Vadikelt et tout ça. Là, on se détache complètement de la civilisation, de l'humain. Tu vas voir dans les civilisations en Extrême-Orient, et tu vas voir un temple sur une montagne dans l'Himalaya. Il n'y a personne qui vient là-bas, mais c'est là-bas qu'on peut se... C'est pas juif tout ça. Parce que chez nous, tu prends 10 juifs qui ne savent pas lire l'hébreu, qui n'ont jamais vraiment étudié la Torah, qui se réunissent, ces forces que l'on a le devoir de maîtriser, chacun peut-il le faire ? Est-ce que chacun peut maîtriser ses forces ? Oui, chacun à son niveau. C'est-à-dire que quelqu'un de petit, eh bien, il maîtrisera de manière petite les forces de bien et il pourra maîtriser de manière petite les forces de mal. Bien sûr que ça représente un danger. Bien sûr que ça représente un danger. Comme tout. Apprendre à conduire, ça représente un danger. Parce que peut-être que maintenant que tu seras sur la route, tu feras un accident. Tout représente un danger. Tout contenu peut être tourné au négatif. Est-ce que pour ça, ça veut dire que je vais vivre dans une tour d'ivoire et que je serai complètement enfermé ? Non. Tout représente un danger. C'est Nachon. D'ailleurs, à aucun moment, Nachon, c'est au Gibor, à Kovesh et Titzro. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir un Yetzer. S'il n'a pas de Yetzer, il n'est pas Gibor. Ou Tzarir Lirbosh. Mais ou Tzarir Gamla Da'at Sheyesh. Encore une fois, à aucun moment, on a dit qu'il fallait s'y essayer. Comprenez-moi bien, lorsque Shabtai Tzvi, Shem Rechaim Irkav, lorsque Shabtai Tzvi dit « Dieu est présent partout », il a raison. Donc, il faut faire des avérotes, et particulièrement dans le sujet des relations sexuelles, comme ça on le dévoile partout. Ben, il a tort. Oui, je sais que Dieu est présent partout. Oui, je sais que, y compris dans les avérotes, Dieu il est présent. Je l'étudie, mais je ne vais pas faire les avérotes. Donc, c'est pas shoot. Ah, est-ce que c'est dur ? Oui, c'est dur. C'est pour ça qu'avant de t'y essayer, il faut boire beaucoup de soupe. C'est-à-dire pas t'essayer à faire les avérotes, mais avant de t'essayer à essayer de comprendre quel est le côté positif, le côté, j'ai envie de dire, le côté khashuv de ces forces-là, bois beaucoup de soupe. Zenachon. Mais je vais te dire un truc. Dans le monde dans lequel on est, la soupe, elle a déjà été bue. C'est-à-dire, que tu le veuilles ou pas, on, ne serait-ce que par le fait qu'on parle en français et que donc on a tous grandi en France dans une société occidentale complètement exacerbée, on a tous été mis face à ces forces-là. Donc maintenant, ce n'est plus la question. La question, quand vous dites « Non, mais ce n'est pas un peu dangereux ?» Tu aurais pu me la poser si tu avais grandi à Mehacharim. Mais tu n'as pas grandi à Mehacharim. Tu es de toute façon, tout le temps, inondé par ces forces-là. Donc, si tu n'apprends pas à pas seulement les maîtriser, mais à y voir le bon côté sans forcément toi y tomber, eh bien, tu tomberas. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas. C'est dangereux. Mais on n'a pas le choix. Et comme ont déjà dit nos sages, « Achaim, zélo pique-nique ». Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Dans le judaïsme, tu prends 10 personnes, 10 juifs, qui ne parlent pas l'hébreu, qui n'ont jamais étudié la Torah, mais il y en a un, il s'appelle Marcel, et il a la Haskara de son père. Alors il a rassemblé ses 10 copains, 9 copains, ils n'ont jamais truc, mais son père, il a dit que c'était important de faire la Haskara. Donc, d'ailleurs, son père non plus, il ne faisait pas grand-chose, mais il se rappelle que son père, il faisait la Haskara de son père. Alors, il va faire la Haskara. Et donc, ils se retrouvent un soir et ils vont faire la tfila de Arvit. Bon, dans le lot, ils ont amené un relige qui va pouvoir faire la tfila. Puis après, Marcel, il va faire Kaddish. Il va le lire en français, en phonétique, et il va se casser les dents sur ce qu'il lit. Il va dire « Idgadal ve Idkadash ». Seulement Marcel et ses 9 copains, 10 juifs, Yesh Gdusha. Et Marcel, il pourra dire Kaddish. Et Marcel, quand le demain matin, il fera son office du matin, eh bien, ils diront la Kedusha. Alors que, à 100 mètres de là, il y a 9 tzadiké olam, talmide chachamim, atsumim, qui sont tous, ils connaissent par cœur tout Talmud, Kabbalah, ce que tu veux. Ils sont 9. Ben, il n'y aura pas de doucha. C'est-à-dire que dans le judaïsme, tu veux la kedusha, il faut être ensemble. Et plus tu es nombreux, et plus c'est de la kedusha de haut niveau. Lorsque 3 juifs se réunissent ensemble, ils vont faire le zimoun. Mais le zimoun sans y faire participer le nom de Dieu. Rabotai nevarer. Yehi Shem Hashem mevorach ma'ata va'adolam. Mais en fait, j'ai cité un verset. Lorsque je suis 10, je dis j'ai fait participer le nom de Dieu parce que je suis 10. Et lorsque je vais être 100, je vais rajouter un autre nom de Dieu encore plus grand. Et je vais être 1000. À tel point que le top du top, alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, celui qui arriverait à voir 600 000 juifs réunis au même endroit, il fait une bracha extraordinaire. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Chacham Arazim. Le sage des secrets. Eh oui, car les secrets se dévoilent uniquement par le biais de la communauté d'Israël. La parasha de Kedoshim nous dit, il est temps que tu commences à mettre en place la Kedusha. Pour y arriver, c'est d'abord avec tout le monde. Un rabbin, un sage, un chacham, ce que tu veux, qui refuserait de se mettre avec le tzibour parce que le tzibour le dérange. Vous savez, dans ma synagogue, on ne peut pas bien prier, les gens ils parlent, ils font du bruit, moi j'ai besoin de me concentrer. Donc je vais m'enfermer dans une pièce à côté. L'eau. L'eau, parce que là où il y a les gens qui parlent, yesh kedusha, et là où tu vas t'enfermer dans ta pièce à côté, il n'y a pas de kedusha. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous dit maintenant que tu es tous ensemble, alors il y a là Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça peut être traduit soit par vous serez saints, soit par soyez saints. En d'autres termes, est-ce que Kedoshim Tiyu c'est une mitzvah ou c'est une promesse? Vous serez saints ou il faut être saint? Machloket, Rambam. Ramban, pour le Ramban, c'est Aftacha, c'est une promesse. Alors que pour le Ramban, c'est une mitzvah. Nous, mitzodek, oui, les deux. Comment ça se fait? Ben, ça dépend à qui tu parles. Au niveau du klal, de la collectivité, c'est Aftacha. Au niveau de l'individu, c'est à toi de jouer. Donc, Kedoshim Tiyu, Avalama, Ki Kadosh Ani. C'est-à-dire, Dieu nous dit, pour l'instant, je suis le seul à être Kadosh. Je m'ennuie un peu. Alors, si vous voulez bien, Bah oui. Et donc, cette paracha de Kedoshim va me donner toute une ribambelle de mitzvot pour atteindre cette Kedusha. Alors, on ne pourrait pas s'arrêter sur toutes les mitzvot, alors il faut s'arrêter sur le fil conducteur de ces mitzvot. Eh bien, le fil conducteur, il est très simple. Prenez la première d'entre elles. Donc, on ouvre la paracha, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, Ish Imo Ve'aviv Tirao. Incroyable. Papa, maman, Shabbat. Et la troisième, pour le kiff. Al tifnu ala elilim. Ve'elohem asecha lo ta'asu lachem ani Hashem Elokechem. C'est-à-dire que la paracha s'ouvre sur le trio de la Kedusha. Papa et maman. Shabbat. Avodah Zara. Ah ouais, Zepachut, c'est ce qu'on appelle le tiercé gagnant. Le rapport que j'ai avec mon père et ma mère, le rapport que j'ai avec le Shabbat et le rapport que j'ai avec la Avodah Zara, eh bien, c'est tout simplement le rapport sous ces trois formes que j'entretiens avec Dieu. C'est-à-dire, vous savez que l'homme, il a ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, il a sa relation avec Dieu. Ben Adam Lachavero, envers son prochain. Et Ben Adam Laatzmo, Pashut. Al tifnu ala elilim, c'est les bases, la avodazara, de Ben Adam, la Makom. Ah oui, si tu commences à aller vers la avodazara, ta relation avec Dieu, elle ne veut plus rien dire. La relation qu'on a avec le Shabbat, oh, mazel, la relation qu'on a avec le Shabbat, ben c'est Vada, et d'abord, c'est la relation avec le temps, puisque le Shabbat est tout simplement notre témoignage de la création du monde. Donc, si tu rejettes le Shabbat, tu rejettes en fait le fait qu'il y a un créateur, donc un but à ce monde. Mais au-delà de cela, le Shabbat, l'Eman, Yanuar, Shorcha, Ve'avdecha, il y a une relation aussi de Ben Adam, la Chavero, au niveau du Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire travailler ton prochain. Les parents. Les parents, Zevadaï. La relation que j'entretiens avec mes parents, ben, enfin, moi, je ne suis pas un fin psychanalyste, mais depuis Freud, eh ben, on sait quand même pas mal de choses. Par exemple, que la relation que j'ai avec mes parents, il y a de fortes chances que ce soit la relation que je vais reproduire avec ma femme et avec mes enfants. En d'autres termes, ça détermine mon identité. Le lien que j'entretiens avec mes parents, c'est le lien qui va construire mon identité. Puisque papa, quand j'étais petit, c'était l'idéal de l'adulte. Moi, je vais devenir un adulte. Sur quoi j'ai comme, qu'est-ce que j'ai comme modèle ? Ben, c'est papa. Maman, c'est l'idéal de celle qui complète papa. Donc, je vais chercher ma femme avec l'idéal que j'ai trouvé chez maman. Et de là au complexe d'Oedipe, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Bekitsour, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Atzmo. C'est ces trois dimensions qui me permettent de passer dans la prochaine étape. De quoi je parle ? On a dit tout à l'heure que ce monde, c'était le septième jour et qu'il fallait passer dans le huitième. Jusque-là, tout va bien. Seulement, ce monde-là, c'est le monde dans lequel je dois faire la Torah, c'est-à-dire je dois faire les mitzvot, c'est-à-dire je dois faire le bien et je ne dois pas faire le mal. Je dois faire ce que Dieu il m'a dit de faire et pas faire ce qu'il m'a dit de ne pas faire. Comment on appelle dans le judaïsme quelqu'un qui fait le bien et qui ne fait pas le mal ? Tzadik. C'est-à-dire que dans ce monde, je dois être tzadik. Si je décide d'en faire plus, oh, c'est pour aller au-delà de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire en faire plus ? Faire plus que ce qu'on m'a demandé. Dans le langage du Talmud, faire plus que ce qu'on m'a demandé, ça s'appelle chassid. Il ne s'agit pas de rapport, aucun rapport avec le chassid de Baal Shem Tov et de la chassidoute actuelle. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. La dimension de chassid dans le Talmud, c'est celui qui fait au-delà de ce que la halakha lui a demandé de faire. Ok, c'est la définition même de chassid. Dis-le à le Talmud. Celui qui veut être chassid, qu'est-ce qu'il doit bien maîtriser ? Eh bien, il y a trois avis différents qui sont donnés dans le Talmud. Premier avis, si tu veux être chassid, il faut que tu maîtrises parfaitement ce qui est marqué dans Milé de Nezikin, c'est-à-dire ce qui est marqué dans Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est-à-dire dans toutes les lois qui gèrent la vie, les litiges entre les hommes. En d'autres termes, le premier avis nous dit tu veux être chassid ? Il faut que tu sois au top dans Ben Adam la Chavero. Il y a un autre avis qui dit non, si tu veux être chassid, il faut être au top dans Milé de Brachot, dans tout ce qui est marqué dans le traité de Brachot, c'est-à-dire ma relation entre l'homme et Dieu, les Brachot. Donc en gros, deuxième avis, tu veux être chassid, il faut être au top au niveau de ta relation Ben Adam la Makom. Troisième avis, pour être chassid, il faut être au top dans ce qui est marqué dans ma Maaseret Avot, c'est-à-dire les bases de la morale qui vont gérer ma vie. C'est-à-dire Ben Adam, Léatmo. Donc, laquelle de ces trois avis est la bonne ? Enfin, lequel de ces trois avis est le bon, c'est ça ? Quelle est la bonne résolution ? La pashut. Il faut les trois. Tu veux être acide ? Ça veut dire qu'il faut que tu sois au top dans Ben Adam, la Makom. Altifnu Ela Elilim. Il faut que tu sois au top dans Ben Adam, la Chavero. Et Chaptota et Tishmoru. Et il faut que tu sois au top dans Ben Adam, Léatmo. Ishimo ve'aviv tirao. Et c'est pourquoi, eh bien, la parashat de Kedoshim va tout simplement nous amener ce verset qui, pour Rabbi Akiva, est un klal gadol batora, à savoir, Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Hashem. Ce verset reprend les trois dimensions. Ve'ahavta le'reacha, tu aimeras ton prochain, c'est ben adam l'chavero. Kamocha, comme toi-même, c'est ben adam l'atmo. Ani Hashem, ben adam l'makom. En d'autres termes, la paracha de Kedoshim nous donne le chemin pour arriver à dévoiler tout simplement cette Kedusha. Et comment ça se termine cette histoire? Eh bien finalement, à la fin de la paracha, donc nous sommes dans le chapitre 20, au verset Kafvav de Kafzaïn, une fois que, enfin c'est vrai, je vais même revenir avant, une fois qu'on nous a, encore une fois, repasser, comme on a dit tout à l'heure, sur les lois des Arayot, pour nous dire quelle est la punition, eh bien, on nous dit la chose suivante. Va omar lachem, atem, tirshu et admatam, ve'ani et enena lachem l'rachet ota eret zavat chalav udvash, ani Hashem Elohechem, asher ivdalti etchem min ha'amim. C'est-à-dire que le but du jeu, au final, c'est que tu mettes en pratique tout ce qu'on vient de dire lorsque tu arrives, be'eretz Israël. Et à ce moment-là, ve'item li kedoshim ki kadosh ani Hashem, va'avdil etchem min ha'amim liot li. Vous serez saints, parce que moi je suis saint, je vous séparerai des autres nations et vous serez pour moi. Et à ce moment-là, on a réussi. La paracha de Kedoshim vient tout simplement mettre en pratique le plan donné par la paracha de Acharemot. En d'autres termes, Acharemot Kedoshim, c'est une fois qu'on a passé en revue les halachot sur la Tum'a, Tazria Metzora, à savoir les halachot qui nous parlent de là où on va être amoindri au niveau des forces de vie. Eh bien, on nous dit Acharemot, après que tu te sois occupé de ce qui amoindrit la vie, de ce qui est la mort, eh bien, il est temps que tu te reconcentres sur la vie pour arriver à l'idéal de cette vie, Kedoshim Tiyu, Kikadosh Ani Hashem Elohechem. Pour arriver à ce stade-là, eh bien, on a besoin de tout le peuple juif et on a besoin, évidemment, d'être en Eretz Israël. Ces deux dimensions sont sine qua non pour que les directives mises en place dans la Torah puissent être réalisées et qu'on puisse enfin atteindre l'objectif du septième jour. L'objectif du septième jour, je termine par là, parce que vous le savez, dans chacun des jours de la création, eh bien, il y a une phrase de conclusion du jour qui nous dit « Vayerev vayivoker yom X ». Eh bien, voilà, il est temps enfin, puisque pour l'instant, on n'a toujours pas eu le verset qui vient conclure le septième jour. Il est temps d'arriver à la dimension de Kedusha pour pouvoir enfin dire « Vayerev Vayar Elohim Kitov, Vayu Kedoshim, Vay Erev, Vay Voker Yom Hashevi, et qu'on puisse enfin tous ensemble rentrer dans le huitième jour, le Bet Amikdash, Bimera Beyamenu, Amen, et Shabbat, Shalom à tous. Voilà, je laisse 30 secondes s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, et après je débranche. Donc est-ce qu'il y a une question, quelqu'un? Pas de questions? Bon. Eh bien, les amis, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite Shabbat Shalom Umvorach. Et voilà. À bientôt. La prochaine cours sera sur le Omer. Velakba Omer. Et ça sera la semaine prochaine. À bientôt.